I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, c'est François Lay et vous êtes sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Depuis 2017, je vais à la rencontre des entrepreneurs qui m'inspirent. PME, start-up, restaurants, grandes entreprises, la mission de Serial Entrepreneur est de mettre en avant toute la diversité de l'entrepreneuriat francophone. Welcome, nous sommes le lundi 4 octobre et je vous retrouve pour ce 46e épisode. J'ai discuté avec Valentin Brulin, cofondateur et CEO de cofondateur.fr, une plateforme de mise en relation entre des porteurs de projets et des développeurs CTO passionnés par l'entrepreneuriat. C'est un chiffre qui peut marquer plus de 70% des projets sans associés, développeurs ou CTO échouent, et ce, dès la première année. Dans un monde où les demandes liées à ces métiers explosent, comment faut-il faire pour trouver l'associé technique idéal pour son projet ? En 2016, Valentin cofonde avec Loïc Lejar, cofondateur.fr. Le concept de la plateforme est simple, sélectionnez votre futur associé, associez-vous en ligne et propulsez votre projet. Outre la mise en relation, Cofondateur propose un programme d'accompagnement de 3 mois pour vous aider et pour répondre à toutes vos questions. Quelles sont les erreurs à ne pas faire? Comment mettre en place cette association juridiquement, via le pacte d'associés notamment? Comment répartir ses parts? D'une potentielle association découlent de nombreuses questions et Cofondateur sera là pour y répondre. Dans cet épisode, Valentin vous raconte son parcours avant de créer Cofondateur, ce qui a été le plus difficile lors de cette aventure, du lancement de la plateforme à aujourd'hui, quelles ont été les plus grandes étapes, quelle est l'importance d'avoir un ou une bonne associée dans son entreprise, ou encore ses conseils pour se lancer. Merci Valentin pour cet échange, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast si le podcast vous plaît, évidemment, de vous abonner sur la plateforme de votre choix et de me rejoindre sur Instagram, @serialentrepreneur avec un S à la fin et le tiré du bas. Moi, je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Valentin.
Salut. Salut François, merci beaucoup.
Alors, ma première question, toujours dans les podcasts, c'est quel a été ton parcours avant d'entreprendre, avant de lancer cofondateur.fr ?
Eh ben moi, j'ai un parcours qui est assez généraliste, puisque j'ai fait, après le lycée, après le bac, j'avais fait une classe prépa. Je savais pas exactement ce que je voulais faire, donc je suis parti sur une école de commerce avec une classe préparatoire. J'ai fait l'ESC Clermont. Et puis, vu que je savais toujours pas ce que je voulais faire, parce que bon, il y avait pas mal de choses qui m'intéressaient, avec une spécialité vraiment, je m'étais spécialisé sur ma troisième année sur le développement commercial et l'entrepreneuriat, c'était vraiment les deux sujets qui m'intéressaient particulièrement. Je savais pas exactement ce que je voulais faire, donc j'ai décidé de partir. Je suis parti un an à l'étranger. J'ai fait un working holiday visa en Australie pour m'ouvrir un peu à autre chose, pour aller voir ailleurs, quoi, hein, et essayer de réfléchir un peu sur soi. Et puis, avant de lancer cofondateur.fr, en fait, j'ai lancé une première société qui s'appelait Easyway. J'étais courtier en fait pour les comités d'entreprise. Alors comment m'était venue l'idée ? J'avais fait une alternance, si tu veux, auprès d'une société qui s'appelait le chèque sport et bien-être Actobi, qui était rachetée par le groupe Up et qui vendait des tickets sport en fait aux comités d'entreprise. Et en fait, en me baladant auprès de nombreux comités d'entreprise, en allant vendre en fait ces tickets sport, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie opportunité, qu'il y avait vraiment des choses à faire, puisque les comités d'entreprise étaient principalement assez désorganisé, moi je trouvais. Donc je me suis positionné en tant que courtier pour faire un petit peu leur boulot en fait, hein, finalement, et aller me mettre en intermédiaire entre eux et leur prestataire de service. Et j'ai lancé une première société comme ça avant de basculer un peu plus tard sur Cofondateur.
Ok, il y a cette petite année là sabbatique qui m'intéresse en Australie. Est-ce que tu peux nous raconter cette année un peu, comment ça s'est déroulé?
Ouais, bien sûr. Et en fait, moi j'étais déjà parti à à l'étranger pendant mes études. J'avais fait un an en Indonésie. J'étais allé vivre un an là-bas, dans une ville extraordinaire qui s'appelle Yogyakarta. Et voilà, hein, de toute façon, quand tu pars à l'étranger et que t'es un petit Français et que tu connais pas grand-chose sur du monde qui t'entoure, bah, ça fait du bien en fait. Ça fait du bien de partir ailleurs, de rencontrer d'autres gens, de découvrir d'autres cultures, et puis bah en fait de t'ouvrir un peu les yeux, de dire qu'en fait en France t'es pas si mal que ça, et qu'il y a des personnes qui galèrent un peu plus que toi. Et puis voilà, l'idée c'était après l'école, bah c'était que je savais pas exactement ce que je voulais faire, j'ai voulu retrouver un peu ces réflexes-là, de dire bah voilà, je vais partir ailleurs pour essayer de trouver des opportunités, pour essayer de comprendre autre chose, de découvrir autre chose. Et bah, j'ai découvert ce système de Working Holiday Visa que je connaissais pas du tout. Et je suis parti avec deux copains d'enfance. En fait, on est parti tous les trois. On a acheté un van. On est arrivé sur Melbourne. On a acheté un van. Pendant 6 mois, on a travaillé fruit picking essentiellement. J'ai été serveur, woofing. On a fait du woofing aussi. Et puis derrière, on a financé en fait, si tu veux, notre voyage avec ça. On a fait toute la côte est.
Ok, super. Et du coup, on arrive à cofondateur.fr. Alors, si je me trompe pas, c'est en 2016 que tu crées ça.
Ouais, c'est ça. J'ai rencontré Loïc, moi, en 2015. Enfin, je le connaissais déjà, mais j'ai Loïc qui est mon associé. On a commencé à échanger sur le projet en 2015. On a lancé un premier MVP, en fait, en 2015. Et la société a été immatriculée en 2017. On a mis du temps, en fait, si tu veux, entre de passer de projet à société.
Ok, bah super intéressant. Est-ce que tu peux nous en parler justement de ce passage, alors déjà de la genèse du projet, à ce moment-là où vous vous êtes dit que ce serait potentiellement intéressant de créer une boîte?
Ouais, clairement.
Et effectivement, du MVP à la société, est-ce que tu peux nous parler de tout ça?
Ouais, bien sûr. Alors, en fait, moi, j'étais, donc pour rappel, j'avais créé ma société auprès des comités entreprises. C'est une société qui fonctionnait plutôt bien parce que j'avais identifié un besoin qui était réel. Donc j'avais réussi en fait, si tu veux, à prendre cette niche-là et vraiment à me développer. Et puis un jour en fait, j'ai compris que pour aller beaucoup plus vite, parce que bah, au moment où j'ai commencé à être un peu submergé de clients et que j'étais tout seul, j'avais pas encore assez d'argent pour aller recruter une autre personne. Et je me suis dit là, bah en fait, il faut que mon premier réflexe était de dire, il faut que j'automatise en fait toutes les transactions que je fais avec les comités d'entreprise et les prestataires de services. Il faut que je monte une plateforme web en fait pour automatiser tout ça, pour permettre aux prestataires de services de venir sur la plateforme et aux comités d'entreprise en fait de s'y retrouver, de leur vendre un abonnement. Et si tu veux, en fait, pas de compétences techniques du tout. J'avais pas fait de cursus technique. J'ai essayé d'apprendre à coder, catastrophe. Je suis pas du tout fait pour ça. Donc, je me suis dit bon, on va vite s'arrêter là. Et en fait, à ce moment-là, j'ai un peu croisé Loïc par hasard. Loïc, c'est le petit frère d'une amie. Et lui, en fait, avait envie d'entreprendre. Développeur, donc un vrai développeur, il fait back front mais principalement back, et voilà, envie d'entreprendre aussi, et en fait on s'est rendu compte tous les deux on avait tous les deux besoin de compétences complémentaires, qui avaient ce problème là en fait, hein, qui existait. Et en fait, en cherchant un petit peu, en faisant notre étude de marché, on s'est rendu compte qu'on était évidemment pas les seuls, mais que c'était un besoin qui était très diffus, et en plus c'était un vrai point de douleur et une raison d'échec majeur en fait dans la création de société, quoi. Et on s'est dit bah tiens, et si on allait monter en fait une plateforme de mise en relation d'associés? Alors il y en avait déjà quelques-unes en France à l'époque. T'avais Timizy notamment, il y avait Entrep qui a depuis pivoté sur un produit qui s'appelle Aster. Donc ils ont fait complètement autre chose. Et puis on a regardé un petit peu ce qui se faisait à l'étranger. Il y avait une plateforme qui est sortie qui s'appelle Co-Founders Lab, et on s'est dit bah tiens, on va monter un premier MVP en fait. Hein. Toi Loïc, tu vas le développer, moi je vais le remplir. On va voir en fait, concrètement si on a de la demande ou pas. Et on a monté un premier MVP en novembre 2015. Et on a réussi assez facilement en fait à faire venir du porteur de projet et des associés potentiels. Et juste pour compléter ça en fait, à l'époque, on n'était pas sur le concept actuel, c'est-à-dire qu'on était sur de la mise en relation entre porteurs de projets et tout type d'associés, et ça fonctionnait pas du tout. On pouvait pas monétiser pour la simple et bonne raison qu'en fait t'avais 70% des porteurs de projets qui cherchaient un dev ou un CTO, et en face t'avais 15% de CTO dev, quoi.
Ouais, vous êtes passé d'une plateforme un peu, on va dire, généraliste, dans le sens où on pouvait trouver n'importe quelle typologie de profil, j'imagine, marketing, communication, etc.,
ouais,
à justement une plateforme pour trouver son cofondateur tech. Et c'est vrai que c'est le besoin, je pense, le plus fréquent, le plus récurrent auprès des gens qui montent des startups notamment. Quoi.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Exactement. C'est exactement ça. C'est le point vraiment de douleur qui est ressorti parce que c'est en fait la tech, c'est toujours ce qui coûte le plus cher. Les porteurs de projets à qui on s'adresse sont principalement de sphères économiques, business, marketing. Et si tu veux, en fait, très souvent, on est sur des profils qui manquent de compétences techniques et qui recherchent du coup ces compétences-là, quoi.
Ok. Et est-ce que tu peux nous parler du fonctionnement de la plateforme, justement ? C'est-à-dire que, par exemple, je veux créer ma startup ou alors j'ai déjà mon projet de startup. Je m'inscris sur la plateforme. Comment ça se passe ? Est-ce que c'est un peu sur un fonctionnement dating ou alors tout autrement ? Enfin, est-ce que tu peux nous parler de ça ?
Alors, le dating c'est pas une mauvaise idée. Hein. C'est pas une mauvaise idée parce qu'on est vraiment, on se définit vraiment comme une plateforme de rencontre. Une plateforme de rencontre avant tout. Nous, on compare vraiment la mise en relation entre associés, pour nous, l'association, en fait, c'est un mariage professionnel. Très clairement,
c'est comme une relation de couple.
Ouais, exactement. Mmh. On n'est pas les seuls à défendre cette idée, mais c'est un véritable mariage professionnel. C'est une personne, des personnes avec qui potentiellement tu vas passer plus de temps qu'avec ta copine, ton copain, ton mari, ta femme, au lancement de la société. Donc, c'est extrêmement important, en fait, d'avoir cette image en tête. Comment ça se passe, du coup, sur Cofondateur, pour répondre à ta question? Tu t'inscris en tant que porteur de projet, tu publies ton projet sur la plateforme. Tu peux voir déjà si les devs, si les CTO en face sont potentiellement intéressés par ce que tu fais. Et puis, t'es rappelé systématiquement sur cofondateur.fr. C'est-à-dire que nous, c'est un point clé chez nous, c'est qu'on appelle tous nos utilisateurs, aussi bien porteurs de projets que développeurs CTO. C'est extrêmement chronophage, mais c'est hyper important pour nous, pour la simple et bonne raison que, étant donné qu'on est là pour vulgariser le langage entre les deux et que tu as des porteurs de projets qui sont persuadés de systématiquement rechercher un CTO, c'est hyper important pour nous, en fait, de recadrer un peu le besoin et d'expliquer à, j'ai rien contre Baptiste 20 ans, mais expliquer à Baptiste 20 ans qui vient de sortir de son IUT en fait, par rapport à son idée, il cherche pas forcément un CTO, mais peut-être avant tout un développeur. Vraiment, voilà, on est là, si tu veux, pour calibrer le besoin. Et après, on a différents programmes d'accompagnement qu'on met en place sur la plateforme pour t'aider, en fait, à trouver cette personne-là, quoi.
Ouais, vous conseillez aussi, en fait, ouais. sur l'association, c'est ça. C'est pas juste de la mise en relation, il y a aussi une partie conseil pour effectivement cadrer cette potentielle association ou non, finalement.
Exactement. Non seulement, en fait, conseil, mais également accompagnement. Et en fait, nous, on traite deux sujets. On traite la rencontre, avant tout, c'est-à-dire qu'on va t'aider à rencontrer la bonne personne, déjà à identifier en fait le bon profil et puis derrière à aller rencontrer la bonne personne. Et puis on traite la structuration. Je sais pas si ça se dit structuration, je sais jamais. Structure.
Si.
Ouais, ça se dit.
On valide.
On valide. Structuration de l'association. Et puis derrière, sa validation en fait. Donc on accompagne derrière sur la période d'essai. Comment est-ce qu'on travaille ensemble? Comment est-ce qu'on se découvre? Quelles sont les erreurs à pas faire? Comment est-ce qu'on se met en place juridiquement? Comment on répartit ses parts? Toutes ces questions, en fait, si tu veux, on les traite. Et l'idée, en fait, de cet accompagnement, c'est avant tout de bien faire comprendre, attention, on est une plateforme de rencontre. Donc, nos programmes d'accompagnement pour rencontrer quelqu'un, ils font 3 mois, mais tu t'associes pas en 3 mois. Tu rencontres une personne en 3 mois et ensuite, faut travailler avec pour voir si derrière tu t'associes.
Oui, donc il y a même le sujet aussi de l'accompagnement juridique, notamment sur la partie pacte des associés, qui est quand même
exactement
extrêmement important quand on s'associe dans n'importe quelle boîte d'ailleurs.
Bah ouais, c'est clair.
Ok, donc ça c'est super intéressant. Est-ce que tu peux nous parler un peu des grandes étapes de cofondateur.fr depuis la création de la société?
Ouais, carrément. Alors du coup, premier MVP lancé en novembre 2015. On commence à parler un peu de l'idée avec Loïc en août 2015 et on lance un premier MVP en novembre. Sur la première année, novembre jusqu'à novembre d'après, on avait vraiment décidé en fait de tester, et puis on faisait ça à côté de nos activités respectives. Donc moi j'avais encore ma société avec les comités d'entreprise, lui qui était en freelance. Et en fait, sur notre temps libre, même si on y passait quand même déjà pas mal de temps, on développait un peu cette plateforme. L'idée, c'était d'avoir voilà, nos 2000 premiers utilisateurs et d'aller en fait récolter tous les avis positifs, négatifs, pour ensuite faire évoluer la plateforme avec les bonnes fonctionnalités. Et c'est ce qu'on a fait en fait sur un an, ça nous a pris un an pour faire venir environ 2200 utilisateurs sur la plateforme. C'est ce qui nous a permis en fait, à force de les appeler, d'échanger avec eux et de regarder un petit peu ce qui se faisait sur la plateforme, de comprendre qu'on n'était pas du tout, selon nous en tout cas, hein, parce qu'il y a d'autres plateformes qui traitent ce segment généraliste et qui y arrivent potentiellement très bien. Mais nous, par rapport à la population qui est née sur notre plateforme, on n'était pas sur le bon segment. Donc, on a pivoté et on a lancé en fait une nouvelle plateforme en février 2017, le temps de la refaire, où là, on était vraiment très axé, mise en relation porteur de projet avec des profils développeurs, CTO pour s'associer. Et depuis, en fait, on a développé, on a changé X fois de business model jusqu'à arriver en fait à ces programmes. Ces différents programmes d'accompagnement sur la rencontre, mais également sur la validation de l'association. Et puis après, voilà, pour les grandes étapes, création de la société officielle en juin 2017, parce qu'on a senti qu'on pouvait monétiser à partir de cette période-là. Début de la monétisation à août 2017, les premiers euros de chiffre d'affaires qui rentrent. Et puis derrière, recrutement, développement de la société. On est parti à deux. Aujourd'hui, on est une équipe de 11 personnes et on continue à croître. Forcément, on y reviendra tout à l'heure, je pense, si on aborde la question de la Covid, mais on a pris un petit coup d'arrêt l'année dernière, mais on continue à avancer, quoi.
Ok. Est-ce que tu peux nous raconter une ou deux belles histoires qui, en termes d'association, qui s'est passée sur cofondateur.fr?
Ouais, bien sûr. Alors, c'est souvent en fait ce que nous demandent nos utilisateurs. Ils nous demandent souvent quelles sont les boîtes en fait qui sont sorties de chez vous. Ils s'attendent toujours à avoir des noms ultra connus, avoir un Blablacar, avoir un Doctolib. Mais en fait, c'est pas la réalité. Malheureusement, on n'a pas de licorne qui sortent de cofondateur.fr. Bah, pour la simple et bonne raison que on est jeune encore. Hein. La plateforme, elle a été lancée en février 2017, dans son état actuel. Donc forcément, on est sur des sociétés, pour donner un ordre d'idée, qui vont de 0 à 20-25 salariés. On est sur des petites boîtes encore, mais c'est déjà une belle évolution sur 2-3 ans d'existence. Il y a une société en ce moment dont on parle beaucoup et dont j'aime bien parler, c'est Gringot, qui est une banque qui se veut très éthique, dans le respect de l'environnement, qui est vraiment positionné sur un axe ESS, économie sociale et solidaire. Ce qui était intéressant, c'est que Top Profil, CTO, qui intègre cette société-là, Fabien, je ne donne pas son nom de famille parce qu'il ne voudra peut-être pas être nommé, mais Fabien, avec qui j'avais pu échanger. Et c'est marrant parce que c'était ce que j'ai bien aimé avec Fabien, c'est que profil voilà très très recherché, qui bossait pour des grandes sociétés en tant que freelance, forcément qui facturait assez cher de par son statut, son expérience. Et ce que j'ai beaucoup aimé en fait dans notre échange, c'est que il m'avait dit qu'il retournerait pas forcément dans un domaine lié à la banque, la finance, parce qu'il avait déjà travaillé pour des choses comme ça. Et c'est ce que je trouve beau en fait dans l'histoire de cofondateurs, c'est que très souvent, c'est ce qui se passe. On a des CTO, des devs qui disent « moi, je veux travailler dans ce secteur d'activité-là et pas dans celui-ci ». Et en fait, parce que tu as du sens dans un projet, parce que tu as une équipe qui est formidable, parce que tu as un projet coup de cœur, en fait, tu t'engages à temps plein. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe avec lui et c'est ce que j'aime. J'espère avoir pas trop fracassé l'histoire, mais c'est ce que j'ai bien aimé dans cette expérience.
Ouais, non, mais j'avais vu justement l'histoire avec Gringot, puisque c'est une une fintech qui monte petit à petit ces dernières semaines. Là, c'est plutôt cool de voir leur histoire et c'est cool aussi de voir qu'ils se sont rencontrés du coup sur cofondateur.fr. Et c'est vrai que c'est drôle, hein, mais il y a un vrai parallèle quand même avec le dating classique dans le sens où ça va quand même créer des rencontres potentiellement inattendues. Et là, tu me dis que ce profil tech ne se voyait pas retourner sur une aventure autour de la banque. Et au final, si.
Au final, il y allait. Et puis, je pense parce que c'est. On avait fait une étude sur un peu plus de 1000 techs sur notre plateforme pour identifier en fait les 3, 4, 5 raisons en fait qui les poussaient à rentrer dans des projets. Parce que c'était une question qui m'était énormément posée en fait par les porteurs de projets. Et ce qui ressortait, c'était le sens. Très souvent, c'était le sens, en fait, la valeur d'un projet. Et on voit de plus en plus de ces profils tech qui ont envie de s'engager, d'apporter de la valeur et qui se disent, voilà, moi, j'ai de l'or entre les mains, en toute humilité, bien sûr, mais j'ai de l'or entre les mains. Faut que j'utilise à bon escient, en fait. Et j'ai pas forcément envie de le faire pour rendre une société encore plus riche dans un domaine comme la finance. Et ils ont cette volonté-là de changer un peu le monde, changer les choses, quoi.
Ok. Eh bien, on va passer à la partie Covid, forcément, qui a été rajoutée l'année dernière dans chaque épisode. Eh bien, quel a été l'impact, justement, de cette pandémie et quel est l'impact aussi, hein, puisque c'est loin d'être fini, sur ton business?
Alors, il a été à la fois positif et négatif, c'est-à-dire que on a eu un double effet avec énormément d'utilisateurs en fait qui se sont mis un peu à tergiverser, à se dire oula, c'est la période est pas facile, j'ai envie de lancer ma boîte mais là c'est pas le bon moment, est-ce que j'attendrai pas la fin de la crise sanitaire, et ceux je pense qui sont partis avec cette idée-là sont toujours en train d'attendre, hein, parce qu'elle est pas, elle est malheureusement pas terminée. On a eu cet effet-là avec forcément un grand nombre d'utilisateurs en fait qui s'écartaient un peu de la voie, et puis à contrario énormément de flux de nouveaux utilisateurs qui ont profité en fait de la Covid, qui ont profité du confinement en fait pour un peu réfléchir à leur vie et se dire mais en fait est-ce que j'irai pas lancer ma boîte, parce que je pense que quand tu as un boulot qui te plaît pas forcément et que tu te retrouves enfermé pendant 3 mois chez toi et que tu te rends compte en fait que t'as plus accès à tes amis, que t'as plus accès à tes loisirs, à ton sport, à tout ce que tu fais en fait hors du boulot, et que tu te retrouves chez toi en fait à bosser. Là, tu te dis putain, non seulement mon boulot me plaît pas, mais en plus là, je suis enfermé pour le faire, quoi. Et en fait, on a eu ce phénomène-là avec énormément de flux d'utilisateurs qui sont arrivés avec des idées. Et très souvent des idées en fait liées en fait à l'apparition de la Covid, quoi. C'est-à-dire des opportunités créées par rapport à ça. Et du coup, en termes de chiffres, on a eu une hausse pendant la Covid, on a eu une hausse d'utilisateurs de plus de 45%, ce qui était plutôt intéressant. C'est intéressant pour nous, beaucoup de flux à gérer. Et nous, typiquement, ouais, pendant la Covid, pendant le confinement, on n'a pas chômé, quoi.
Ouais, et puis encore plus sur des métiers tech, puisque enfin c'est quand même des métiers qui peuvent se réaliser de n'importe où dans le monde, hein, sans être présent physiquement. Et je pense que c'est vrai que l'arrivée de la pandémie potentiellement a permis à certaines personnes dans ce milieu de se dire finalement est-ce que ma présence physique est vraiment nécessaire, est-ce que, enfin je pense de se poser pas mal de questions que tu te posais pas forcément avant, quoi.
Ouais, c'est clair et net, et ça a vraiment, et heureusement d'ailleurs, je pense que ça a vraiment changé les choses par rapport à ça, là où le télétravail en France c'était quand même pas hyper développé, hein. Là où le télétravail était plutôt assimilé un peu à de la fainéantise, à la volonté de rester bien au chaud chez soi et à commencer à bosser à 10h30, en fait, on s'est rendu compte que non, en fait, tu peux être très bien organisé en télétravail, tu peux abattre autant de boulot. Voilà, après, tu as un truc que tu peux pas enlever pour moi au présentiel, c'est la dynamique d'équipe qui se crée. Voilà, les interactions qui sont plus nombreuses, l'ambiance, l'atmosphère, enfin, ça, c'est des choses forcément que tu peux.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need.
Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Pas enlever, mais en télétravail, tu peux exister, tu peux très bien travailler. Et aujourd'hui, nous, c'est quelque chose. Alors, on n'avait pas attendu le confinement pour le mettre en place. C'est quelque chose qu'on a encore plus développé. Ça demande une organisation, mais ça se passe très bien, quoi.
Ok, très clair. Maintenant, je vais te poser quelques questions bilan sur cofondateur.fr. Et la première question, c'est qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette aventure depuis la création de la société ?
Ce qui a été très difficile, c'est de convaincre en fait l'écosystème sur la viabilité, sur l'intérêt du projet. En fait, ça a été très très compliqué pour les premiers partenaires, les premiers investisseurs, les premiers utilisateurs. En fait, quand tu as une plateforme qui est vide, hein, au début, tu as 10 pélos dessus, tu te dis ça va être compliqué. Voilà, il faut pas mentir, hein, faut pas se voiler la face, comme dans toute plateforme, les 10-15 premiers utilisateurs, c'est tes copains qui ont créé des profils, hein. Moi, j'ai absolument aucun tabou là-dessus. Et puis, après, une fois que les 100 premiers utilisateurs, sont inscrits, tu dégages tes copains et puis ça se met en place, t'appelles tout le monde. Mais là-dessus, faut pas se voiler la face. Ce qui a été très compliqué, c'est de faire comprendre, à toutes ces personnes, à tout l'écosystème, en fait, que tu peux t'associer, sans te connaître. Alors attention, tu dois attendre d'apprendre à te connaître pour t'associer, mais tu peux t'associer avec des gens, un, qui sont à l'autre bout de la France, et deux, que tu rencontres via une plateforme digitale. Un associé, c'est pas forcément quelqu'un que tu rencontres au coin de la rue, c'est pas forcément ton voisin, c'est pas forcément un ami, c'est pas forcément quelqu'un avec qui t'as travaillé. C'est tout à fait possible en fait de t'associer avec quelqu'un que à la base tu ne connais pas, et c'est ce qu'on a fait, hein, déjà un peu plus de 1000 fois sur Cofondateur. Par contre, ce qui est sûr, c'est que pour que ça fonctionne, il y a un certain nombre de règles à respecter, un certain nombre d'erreurs à ne pas faire, et des bonnes pratiques en fait à mettre en place, quoi. Et ça, ça a été très très dur en fait à faire comprendre à tout le monde.
Ouais, je comprends. C'est clair que au tout début, quand c'est juste une plateforme, effectivement, avec sans la communauté derrière entre guillemets, c'est clair que c'est plus difficile à vendre.
C'est clair, c'est ça.
Puis après, l'intérêt des utilisateurs est pas là, quoi.
Ouais, c'est ça. Et puis après, la meilleure acquisition de cofondateur.fr, c'est nos utilisateurs qui ont trouvé des associés. Ils sont forcément dans un incubateur, dans un accélérateur, dans un milieu startup. Ils échangent avec d'autres porteurs de projets, et c'est eux en fait qui, en échangeant sur leur parcours, en disant nous on s'est rencontrés sur cofondateur.fr, diffusent en fait l'idée que c'est possible.
Exactement.
C'est vraiment le principal point d'acquisition. C'est pas l'automatisation via LinkedIn qu'on lance tous les jours pour aller chercher des mecs en disant si tu venais t'associer sur Cofondateur, les mecs ils vont se dire c'est sympa, mais je te connais pas, je suis pas persuadé que ce soit déjà un ce que j'ai envie de faire. Donc nos porteurs de projet en fait sont nos principaux commerciaux, hein, d'une manière très simple, quoi.
Et du coup aujourd'hui Cofondateur.fr en quelques chiffres.
Alors du coup sur les chiffres, donc on est nous 11 personnes dans l'équipe. On a fait un peu plus de 1100 associations à ce jour depuis du coup la création de la plateforme et ce pivot sur les profils tech en 2017. On frôle les 30 000 utilisateurs, on n'en est pas très loin. On fait très régulièrement des remises un peu à jour de la base, mais 30 000 utilisateurs avec, comme tu peux l'imaginer, une majorité de porteurs de projets par rapport au profil tech, hein. On est toujours à peu près sur des ratios qui sont à un petit peu moins de 2/3, 1/3, avec plus de porteurs de projets qui s'inscrivent. C'est à l'image en fait du marché, de la pénurie de ce type de profil, et heureusement en fait, en mettant en place ces programmes payants côté porteurs de projets, on arrive à réguler les flux, parce que sinon c'est une question qu'on nous pose souvent en fait, mais pourquoi vous êtes pas gratuit? Déjà, un, parce qu'il faut qu'on gagne notre vie, et deux, c'est par rapport à ça, c'est clair. Et puis deuxièmement, c'est aussi parce que si la plateforme était entièrement gratuite, on aurait zéro dev et zéro CTO dessus, parce qu'ils se seraient tous cassés. Parce que quand la plateforme était gratuite, les devs, les CTO, ils recevaient 10 messages par jour. C'était l'enfer. Et on était sur beaucoup moins d'utilisateurs que ça. Et aujourd'hui, même avec ces flux, ils sont à 5-6 messages par jour.
C'est vrai qu'on peut parler très rapidement du business model. Du coup, c'est les porteurs de projets hein, qui payent. C'est quoi? C'est une mensualité? Comment ça se passe?
C'est ça. En fait, on a lancé des programmes d'accompagnement. Donc, tu as 3 programmes d'accompagnement avec des niveaux d'accompagnement en fait, qui sont exponentiels en, fait, hein, en fonction de ce que tu choisis et de ce qu'il te faut. On a un programme qui est de 3 mois en fait, qui s'appelle le programme standard et qui te permet d'échanger pendant 3 mois avec l'ensemble des profils de la plateforme, l'ensemble des profils tech, des CTO de la plateforme, où tu as un accompagnement via des vidéos qui te donnent toutes les bonnes pratiques. Tu as un programme intermédiaire où là, on a un consultant ou une consultante de la plateforme qui vient te proposer des profils, qui vient t'en présenter, t'aider un peu à vulgariser le langage, débriefer en fait de tes échanges avec les profils. Et puis, on a un troisième programme où là aussi, on est on va de 3 à 6 mois parce que c'est toujours un peu plus compliqué. Et là, on est sur de la chasse. Donc, on va chasser des profils qu'on présente et on fonctionne en fait au success fees par rapport à ça.
Très clair. Et ma dernière question de bilan, c'est quels sont les objectifs futurs pour cofondateur.fr?
Alors, les objectifs futurs, nous, on a l'ambition un peu... à chaque fois que je donne ce chiffre, on me dit toujours « mais t'es fou, vous n'y arriverez jamais ». On a l'ambition un peu folle de créer 15 000 entreprises à 2025. C'est notre objectif. Voilà, on y croit à dur comme fer. On sait qu'aujourd'hui, en tenant notre rythme de croisière actuel, on n'y arrivera pas, mais on compte accélérer et on a l'attraction pour ça. On a les chiffres pour ça. Les objectifs, c'est aussi de se diffuser un peu plus loin que la France. Alors, c'est déjà fait en Suisse, en Belgique, au Québec notamment, sur une partie francophone. Et puis bah l'idée c'est de partir assez rapidement sur l'Europe. On a pas mal d'appels du pied de la Corée, tu vois. Donc il y a en fait des pays comme ça où il y a une vraie problématique et qui aujourd'hui n'est pas traitée en fait, qui n'est pas adressée. Donc voilà, à 5 ans, on a l'ambition en fait de partir sur des pays assez éloignés. Mais premièrement, voilà, version francophone, puis version anglophone avec Allemagne, ouais, UK, Europe, voilà. Et c'est marrant, bah, j'écoutais le podcast de Swelo et je crois que c'était un peu le même plan de développement. Donc c'est
ouais, pour ça. Effectivement. Ok, super, super intéressant. On passe maintenant à l'avant-dernière partie du podcast sur les rencontres, le mindset et l'entrepreneuriat. Et ma première question, c'est quelles sont les rencontres qui t'ont le plus marqué dans ta vie entrepreneuriale?
Les rencontres qui m'ont le plus marqué dans ma vie entrepreneuriale, je passe toujours une dédicace particulière à un monsieur qui s'appelle Fabrice Caillou, qui est basé sur Clermont-Ferrand, qui est toujours d'ailleurs le directeur du Square Lab, qui était l'incubateur en fait qu'on avait fait. C'est quelqu'un qui a, je trouve, une très belle vision entrepreneuriale, et c'est lui en fait qui m'a fait comprendre officiellement hein, qu'il fallait pivoter et partir sur les devs et les CTO. C'est-à-dire que en fait, un truc qui est quand même assez hallucinant, c'est que quand t'es dans ta sphère un peu de création, quand t'es entrepreneur et que tu lances des choses, t'as mine de rien méga la tête dans le guidon, et c'est à ça aussi qu'un associé sert aussi, c'est à te remettre un peu les pieds sur terre. Et en fait, le problème, on en était conscient, mais sans vraiment réussir à passer la marche, à monter la marche. Et du jour au lendemain, en fait, c'est vrai que quand t'as quelqu'un qui arrive et qui te dit, mais en fait, pourquoi tu fais pas ça? Et que c'est la bonne réponse, en fait, tu le comprends tout de suite. Et tu dis, mais en fait, je le sais. Et ça y est, en fait, je vais pouvoir le faire. J'attendais juste cet avis extérieur pour valider. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a quelqu'un aussi qui m'a beaucoup apporté sur sa vision, son calme. Et d'ailleurs, je te le recommanderai un petit peu plus tard sur un échange de podcast. C'est un ami qui s'appelle Vincent Quesada qui a monté l'entreprise Tipto. Je ne sais pas si tu connais. C'est les pieds de chaises. Alors ils sont partis sur des pieds de table, que je dise pas de bêtises, qui sont multicoloris. Tu sais que tu peux personnaliser. Tu viens mettre en fait un plan de travail en fait hein, pour faire une table. Alors j'ai pas le vocabulaire exact, il me corrigera. Et puis derrière, bah ils ont lancé des étagères. Ils lancent actuellement un canapé. C'est une très très belle société. Et Vincent, c'est quelqu'un alors qui était à la base en classe préparatoire avec moi, et j'ai toujours été en fait assez marqué par son calme, son intelligence, et il m'a vraiment beaucoup apporté, parce que c'est vrai que quand tu, ayant été entrepreneur mais plutôt sur une start-up après lui, je me suis beaucoup inspiré en fait de ce qu'il me disait, et c'est un petit peu quelque part même s'il le sait pas forcément parce que on en a jamais parlé, mais c'est une sorte de mentor en fait pour moi, et je pense que c'est très important en fait quand tu es entrepreneur d'avoir quelqu'un qui a été entrepreneur ou qui l'est et qui est capable de t'apporter des idées, le bon mindset, et qui est capable de dire bah en fait ce que tu as traversé, je l'ai traversé et tu devrais faire ça, et qui te met sur la voie en fait systématiquement quoi.
Ouais, c'est super important d'avoir des gens comme ça dans son entourage quand on lance et qu'on développe une boîte.
Quoi. Ouais, c'est clair. Donc voilà, c'est deux principes. Alors il y en a eu plein des rencontres, mais c'est deux principales rencontres qui m'ont vraiment beaucoup apporté.
Et est-ce que tu peux me citer une ou deux personnes qui t'inspirent aujourd'hui? Alors des gens que tu connais pas forcément, hein, c'est vraiment l'inspiration, peut se faire partout, mais est-ce que t'as une ou deux personnes qui t'inspirent aujourd'hui?
Ouais, il y a deux, il y a quelques personnes qui forcément m'inspirent. Il y en a un de par un peu sa proximité, c'est Gilles Chetelat, qui a lancé une société qui s'appelait Sticky Ads, et qui a été revendue aux États-Unis un peu plus de 100 millions d'euros. C'est quelqu'un en fait que je connais parce que il est passé en fait par notre école. Il a fait comme moi le lycée Clermont, et c'est devenu un peu un peu plus tard le parrain des futures promotions. Mais il a écrit un livre qui s'appelle Get Shit Done, que je trouve hyper bien écrit, et qui change complètement en fait le format des bouquins que j'avais pu lire en fait sur la création d'entreprise, sur la start-up. Et en fait, ce qui est assez intéressant dans ce bouquin, c'est que je trouve qu'il est écrit avec beaucoup d'humilité, et vraiment avec une espèce de vérité et de simplicité qui te permet toi en fait systématiquement de te retrouver, alors qu'en fait les chiffres entre Sticky Ads et cofondateur sont complètement ça n'a rien à voir quoi, c'est deux mondes complètement différents. Mais malgré tout en fait le bouquin est écrit de sorte à ce que je pense, peu importe la création d'entreprise que tu fais, tu peux t'y retrouver, parce que tu as toutes les étapes en fait à travers la recherche de l'associé, justement, le premier recrutement, les premiers investisseurs. En fait, c'est plein de chapitres comme ça qui partagent en fait en toute simplicité des idées, et systématiquement en fait tu as et les forces en présence et les faiblesses en présence de chacun. Et c'est un bouquin qui m'a beaucoup inspiré, et Gilles Chetelat, quelqu'un aussi que je trouve voilà très très intéressant. Des personnes alors que je connais, je vais pas être très original, mais mes parents, moi je pense que c'est eux vraiment qui m'ont donné la liberté en fait et la confiance en moi nécessaire en fait à la création d'entreprise, et je les remercierai jamais assez pour ça. Voilà, j'irai pas plus loin, mais tu vois, ces trois personnes, du coup, mes parents et Gilles Chetelat, je trouve très intéressant.
Parlant du livre, et d'ailleurs, il m'a été conseillé dans la saison 5, okay. Je sais plus exactement qui me l'a conseillé, je crois que c'est peut-être Mélanie de Goldup ou Anne de Mailubi, mais c'est vrai que c'est un bouquin qui revient souvent et qui a marqué pas mal de gens aussi, donc merci pour la reco indirecte. on n'y est pas encore, mais merci à toi. Et la dernière question sur cette partie-là, c'est quel conseil donnerais-tu aux personnes qui souhaiteraient se lancer?
Alors, moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui est, je crois bien que c'est Confucius qui a dit, on a deux oreilles et une bouche parce qu'on a deux fois plus besoin d'écouter que de parler. C'est une phrase qui revient assez souvent, mais qui pour moi est extrêmement importante. L'écoute avant tout. Je pense que c'est extrêmement important quand on est entrepreneur d'écouter les autres et d'écouter avant tout ses utilisateurs. Moi, je sais que sans nos utilisateurs, on n'en serait pas là. On a appris à les écouter. On les a creusés pour essayer de comprendre ce qu'ils voulaient, pour essayer de bien comprendre leurs retours et tout ce qui était négatif principalement. Et Pour moi, quand tu es entrepreneur et que tu as envie de te lancer, il te faut cette qualité-là, l'écoute, et il te faut surtout l'humilité nécessaire pour te remettre en question et être capable, en fait, de détruire ce que tu as fait et de recommencer. Forcément, viennent avec ça le courage, la persévérance. Voilà, ça pour moi, c'est les qualités à avoir qui sont nécessaires. Et puis derrière, le conseil principal, c'est évidemment croyez en vous. Ne laissez jamais personne. Écoutez ce que les gens vous disent évidemment, mais ne laissez jamais personne détruire votre projet à partir du moment où vous avez des certitudes dessus. Parce que si vous détruisez tout ça et que vous n'essayez pas, vous aurez toujours ce regret infini en vous. Et puis deuxième chose, une crainte qui est partagée par tous les porteurs de projets et qui est pour moi un faux problème, c'est parler de votre idée. Si vous ne parlez pas de votre idée, vous ne pouvez pas la développer et elle reste au fond du garage. C'est la question numéro un qui revient toujours sur cofondateur.fr, pardon. Si je parle de mon idée, est-ce que je vais pas me la faire piquer par un développeur? Les développeurs, ils ont pas que ça à faire.
On s'en fout de l'idée.
Ouais, c'est ça, exactement. Et puis au même titre que eux, en fait, sont capables de produire une idée, ils sont pas et que vous n'êtes pas capable de le faire, ils sont pas capables de la vendre et vous êtes capable de le faire. Donc en fait, il faut arrêter avec ce problème qui n'en est pas un et qui, je pense, divise par deux ou trois en France le nombre de potentiels entrepreneurs et foncez quoi.
Très clair. Bah, le message est, je pense, passé. Et je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit. On va passer maintenant à la dernière partie du podcast. Quelques petites questions rapides. Est-ce que tu as un livre à me conseiller?
Alors, Get Shit Done, forcément, que je t'ai donné. Et j'en ai un deuxième qui est extrêmement bien fait, plutôt sur de la méthodologie de travail, sur la possibilité, en fait, sur ta capacité à itérer, à designer les choses, à créer. Il s'appelle Design a Better Business et je suis en train de chercher l'auteur parce que je m'en rappelle jamais, mais je vais te le donner tout de suite. Comme ça, tu l'auras et on aura été complet. C'est Justin Lockitz et Patrick Van Der Pijl. C'est pour ça que je ne m'en rappelle jamais. Mais en tout cas, voilà, c'est un bouquin que je recommande à tout le monde. Moi qui ai un défaut, c'est pendant longtemps qui m'a poursuivi et qui m'a fait beaucoup de mal, c'est le manque d'organisation. Ça m'a fait vraiment beaucoup, beaucoup de mal. Ce bouquin est extrêmement positif pour recadrer ses idées, aller à l'essentiel et aller rapidement sur le marché.
Ok, bah, tu m'as donné envie de le lire, donc je le rajouterai à ma liste de courses. Est-ce que tu as un film à me conseiller?
Ouais, j'ai un film, moi, que j'adore, que je trouve assez hallucinant, c'est Tu ne tueras point. Tu sais, je sais pas si tu l'as déjà vu, ce film. C'est sur un mec en fait qui est chrétien. Maintenant, c'est un pan de la chrétienté particulier. Je ne sais plus lequel exactement. Je laisserai les auditeurs du podcast aller un petit peu plus loin et le chercher. Qui l'empêchait en fait de porter une arme, de combattre, de donner des coups de poing, de violenter quelqu'un et donc de faire la guerre par définition. Et ce mec-là, en fait, a été appelé pendant le service militaire aux États-Unis. Il a été appelé pendant la guerre, en fait, hein, pendant la Seconde Guerre mondiale, pas le droit de porter une arme. Et en fait, si tu veux, le mec, au lieu de prendre quand même une arme pour essayer de se défendre, il est resté fidèle à ses principes et il est resté sur le champ de bataille et il a sauvé, je crois, un peu plus de 70 personnes parce qu'en fait, il a utiliser ses compétences en fait pour aller chercher les morts au péril de sa vie sur le champ de bataille pour les redescendre d'une falaise via une corde. Enfin, c'est assez hallucinant comme film et le mental du mec est assez dingue quoi. C'est un film qui m'a vraiment marqué.
Ok, sympa. La troisième question, c'est ta musique du moment.
Ma musique du moment, je suis pas très bon pour ça. J'écoute beaucoup Post Malone en ce moment. J'aime beaucoup Post Malone.
C'est validé.
Ouais, j'aime bien. Bon, j'adore. Mais je suis incapable de te sortir une musique parce que j'écoute toujours un petit peu son album en boucle et j'ai pas la mémoire des titres. Mais j'adore. J'ai quand même te citer un autre artiste en ce moment qui me fait beaucoup de bien. C'est Lewis Hoffman que j'adore. Dans un style complètement différent.
Si tu pouvais racheter n'importe quelle boîte, ce serait laquelle? Sans limite financière.
Si je pouvais racheter n'importe quelle boîte, allez, je ne vais pas être super original, mais je rachèterais bien Co-Founders Lab pour Co-Founders Lab, qui est notre concurrent aux États-Unis, pour aller démarcher ce marché américain parce qu'ils ont fait quelque chose d'assez, euh, d'assez dingue en fait, hein, d'aller réunir un peu plus de 150 000 potentiels entrepreneurs sur une plateforme aux États-Unis, en faire un réseau social derrière. Enfin, ils ont fait quelque chose d'assez fort.
Avant dernière question, c'est y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée ?
Peut-être un truc qui est assez intéressant pour moi et que je demande systématiquement aux porteurs de projets et aux potentiels associés d'identifier, c'est les valeurs en fait. Quelles sont potentiellement mes valeurs ? Et ça, c'est une question que tous les porteurs de projets doivent pour moi se poser, parce que c'est essentiel en fait de savoir comment tu les portes, ces valeurs, et quelles sont-elles, pour aller un petit peu plus loin et créer ton entreprise. Ton entreprise est forcément à l'image de tes valeurs quand tu es porteur de projet.
Exactement. Et du coup, quelles sont tes valeurs ?
Du coup, mes valeurs, pour moi, elles sont très claires. C'est l'humilité. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi et j'essaye de... Le pire, en fait, qu'on pourrait me dire, c'est justement, bah, t'as pas les pieds sur terre, tu es complètement déconnecté de la réalité... Donc l'humilité, le travail, c'est si tu travailles pas, tu n'y arrives pas. Je suis pas hyper original, mais c'est la vérité. Et puis le courage, la solidarité. Quand t'as des gens qui sont pas bien dans ton équipe, si tu les aides pas, tu casses tout et tu peux vite te retrouver en très très grosses difficultés. Donc prenez soin les uns des autres. Je sais pas si la solidarité ou la bienveillance peut être un mélange des deux un peu quoi.
Très clair. Et ma dernière question, c'est quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour un prochain épisode ?
Alors, je te conseille Vincent Quesada de Tipto, dont je t'ai parlé un petit peu plus en amont. Pourquoi pas Gilles Chetla ? Alors, je ressasse un petit peu, mais tout ce que je t'ai dit un petit peu avant, mais une très belle expérience. Et puis là, il est parti sur une autre expérience. Entrepreneurial, une autre aventure qui s'appelle Klein, qui est un projet que je trouve super intéressant. Moi, il y a un entrepreneur dont j'ai toujours apprécié le franc parler, c'est Pierre Kosciusko-Morizet, anciennement Price Minister. C'est quelqu'un que je trouve hyper droit dans ses bottes, qui est il parle pas pour rien dire, il a une très belle vision de l'entrepreneuriat, très pragmatique. Voilà, quelqu'un que je pense hyper intéressant, je pense que ça pourrait donner un joli podcast.
Un des pionniers français du web.
Ouais, exactement. Exactement, ouais.
Super, merci pour tes recos. Merci pour cet échange, c'était très cool, j'espère que ça t'a plu.
Ouais, c'était super, merci beaucoup.
Et à toi qui écoutes le podcast, si tu es porteur de projet, si tu développes un projet et que tu recherches un associé tech, bah je crois que tu sais ce qu'il te reste à faire. Allez sur cofondateur.fr. Et puis voilà, on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Ciao Valentin.
François, salut.
Cet épisode est déjà fini. Un grand merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, tu peux me soutenir très facilement en faisant plusieurs choses. Laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, ça booste le référencement du podcast. T'abonner via la plateforme audio de ton choix, Spotify, Deezer, Apple, Google, le podcast est présent partout. T'abonner au compte Instagram, @serialentrepreneur avec un underscore à la fin. Et puis t'abonner à la chaîne YouTube du podcast qui est à mon nom, François Lay. Je fais également des vidéos où je raconte des histoires d'entreprise. Tu peux même m'envoyer ton feedback à l'adresse françois@serial-entrepreneur.fr. Voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.